chers amis, bonjour ! Nous commençons notre semaine dans Lyon, oui, dans ce village de Véron, à 15 minutes au sud de Sens. La commune fait d'ailleurs partie du Grand Sénonais. Et c'est une population de 2000 habitants actuellement à Véron. Il existe à Véron une belle légende qui court au sujet d'une fontaine. Car cette fontaine, cette source, disons, aurait jailli lorsqu'un cheval nommé Gorgon avait enfoncé sa patte dans la terre. Et l'église de Véron s'appelle d'ailleurs Saint-Gorgon et Saint-Dorothée. Cette source se trouve à 1 km du bourg de Véron. Elle faisait tourner un moulin. Le bassin de cette fontaine fait 16 mètres de diamètre et on attribue à l'eau la vertu de pétrifier les objets qu'on y plonge. Pétrifier, c'est-à-dire que l'eau dépose du calcaire sur ces objets, elle enveloppe les objets qu'on y plonge d'incrustations calcaires, mais enfin ça ne se fait pas en une minute bien sûr. De l'eau, toujours celle de Véron, mais pas pétrifiante celle-là, qui permet d'alimenter une cressonnière, aliment diététique et riche en vitamines et en minéraux. Le cresson, on peut le consommer en salade, en velouté, en mousse, on peut l'intégrer dans une tarte salée, une quiche, etc. Il existe donc à Véron une cressiculture, un cressiculteur. Cette cressonnière de Véron existe depuis quelques 75 ans. On peut citer aussi à Véron une nougaterie et une scierie parmi les activités. Bienvenue dans ce gros village de Lyon pour jouer aujourd'hui avec Jean-Louis Ardelet et Valérie Deslandres. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous connaissez bien Véron, puisque oui. Vous y habitez et vous y travaillez.
Tout à fait, oui. Je travaille à la médiathèque Joël Brière à Véron.
Joël Brière, qui a été maire de Véron, c'est bien ça?
Tout à fait.
Qui est une éditrice.
Oui. Elle tient la maison des éditions de La Renarde Rouge.
La Renarde Rouge, on en dira un mot demain d'ailleurs, c'est prévu, mais je salue Joël Brière qui est assise au premier rang d'ailleurs. Qu'aimez-vous dans la vie, Valérie, à part la lecture, à part les
la
livres?
La lecture, oui. La musique aussi.
Oui, plutôt classique, plutôt pop, plutôt rock,
plutôt,
jazz.
Oui, plutôt contemporaine, oui. Pop, rock, jazz.
Valérie, vous jouez vous-même, vous allez sur les traces des grands musiciens, puisque vous jouez vous-même de la guitare électrique depuis quelques années, en fait, vous apprenez.
Ça fait 2 ans, en fait, que j'apprends à jouer. Donc, je ne sais pas si je peux lancer un petit coucou à mon prof, Alexandre Marandel, donc de l'école AM Guitare, sur Sens.
À Sens, ouais.
Voilà.
Eh bien, il sera heureux d'être salué sur l'antenne de France Inter. Jean-Louis Ardelet est à vos côtés. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Nicolas.
Vous apprenez à jouer de la guitare électrique, Jean-Louis?
Pas encore.
Pas encore, non? Aimez-vous dans la vie où vous faites du racou, de la pelote basque, des gâteaux au chocolat, du crochet?
Oui, tout ça.
Tout ça, voilà.
Oui.
Vous aimez les chats, vous aimez les,
voilà.
Oui, les journaux anciens que vous collectionnez, vous êtes fan de Gérard Lenormand, enfin je sais pas. Dites-moi quelques mots de vous.
Alors, moi j'aime bien lire, je suis retraité, je travaillais dans une banque. Donc j'aime bien lire et j'aime bien écouter de la musique.
Oui, classique.
Classique. Et nous avons créé une association donc à Pont-sur-Yonne, où j'habite, où nous avons organisé pendant 6 ans, nous continuons à organiser des concerts de musique classique et autres activités culturelles.
Jean-Louis, vous êtes lecteur aussi, comme souvent nos candidats. Que lisez-vous en ce moment, par exemple?
En ce moment, je lis un livre de Camille Pascal, qui est une œuvre romancée sur le Charles X et les rois qui suivent.
L'été des quatre.
L'été des quatre, voilà.
Oui. Et je n'ai pas demandé à Valérie quel était son conseil de lecture pour une bibliothécaire. Et...
Alors, je viens de lire le dernier Goncourt, qui est vraiment très, très bien.
Oui.
Leurs enfants avant eux, je crois.
C'est ça.
Pas, oui. Voilà, de Nicolas Mathieu. Et là, je suis en train de lire La vraie vie d'Alice Dieudonné, qui est très, très bien aussi. Voilà.
Merci.
Un premier roman d'une auteure belge.
Pour ces conseils de lecture de la part de Valérie et Jean-Louis qui jouent aujourd'hui et qui répondent aux questions envoyées par les auditeurs, par certains de nos auditeurs. Merci beaucoup. Première question bleue, tirée au sort, une question de Jean-Pierre Cole qui habite Eda dans le Puy-de-Dôme. En 1987, elle a chanté Babacar. Histoire d'une petite fille. Cette chanson évoquait un bébé même sénégalais dont cette chanteuse a aidé la famille. De quelle chanteuse s'agit-il?
France Gall,
Babacar, 1987. Deuxième question bleue d'aujourd'hui, de Michel Laville à Sulniac dans le Morbihan. Catherine Upshare fut repasseuse, cantinière, puis blanchisseuse. Elle a épousé en 1783 le soldat François-Joseph Lefebvre, qui était sergent aux gardes françaises. De par l'élévation de son époux, maréchal d'Empire, en 1804, Elle a intégré la cour impériale sans perdre sa façon d'être, son vocabulaire et ses manières. Ou grand dame de beaucoup d'ailleurs. La question, j'y viens, elle était longue cette question, mais il fallait donner pas mal de précisions. Sous quel nom connaît-on Catherine Upshire ?
Madame Sangène.
Ah oui, c'est ça. Et réponse courte, Madame Sangène. Autre question bleue, la troisième d'aujourd'hui, de Madame Honnête Martin, qui habite Rouffignac en Charente-Maritime. Jules César est certainement le dirigeant romain le plus connu, mais il n'était pas empereur, Jules César. Il était dictateur, certes, mais pas empereur. Il s'était fait nommer, d'ailleurs, dictateur à vie à Rome. Mais qui a été le premier empereur romain ?
Auguste.
Et c'était son fils, en effet, son fils adoptif. Et c'est bien Auguste, qui était par ailleurs son petit-neveu, le premier empereur Auguste. Maintenant, une question blanche qui a été envoyée par Anne Le Cornec de La Réunion à Saint-Paul. Après le bambou, quelle est la plus grande herbe du monde ? On parle de végétaux, là. La plus grande herbe du monde. Alors, c'est une plante qu'on ne classe pas toujours dans la catégorie des plantes herbacées. Pourtant, c'est bien une herbe. On n'y pense pas forcément, disons. Mais elle fait partie.
Une plante sous-marine ?
Pas sous-marine, non, non. C'est une plante terrestre qu'on trouve plutôt dans les pays chauds, hein, tropicaux, la Réunion, par exemple, qui produit un fruit qu'on consomme quasiment tous les jours, enfin pour certains d'entre nous. Valérie et Jean-Louis, une question blanche également de Claude Bonnefond à Draveil dans l'Essonne. On peut souvent lire l'expression « le navire allait à la vitesse de 8 nœuds à l'heure ». Cette formulation, nous dit Claude à juste titre, est erronée. Pourquoi ?
Parce que c'est un kilomètre heure que l'on voit, c'est pas en nœuds à l'heure.
Alors, c'est bien une mesure de la vitesse, mais il y a une erreur, disons, dans l'énoncé de la question.
Si on peut voguer dire.
Non, non, ça n'a pas de rapport avec le verbe. Non, voguer, si vous voulez, mais le navire voguait, d'accord, à la vitesse de 8 nœuds à l'heure.
On ne dit pas à l'heure après 8 nœuds ?
Pourquoi ?
C'est
déjà la vitesse à l'heure.
C'est-à-dire que le nœud, qu'est-ce que c'est ?
Le nœud, c'est la mesure de la vitesse à l'heure, déjà ?
Oui, et c'est quoi la mesure en navigation ? L'unité
de. C'est le nœud ?
Non, c'est le nœud pour la vitesse, mais pour la distance, c'est le. On va y arriver.
Le mile.
Le mille, oui, c'est ça. Et donc un nœud, c'est.
Un mile.
Mais par
heure.
Ah oui, on y est arrivé, hein, c'est bien. Voilà. C'est en effet le nœud est l'unité de mesure et qui correspond à un mille à l'heure. Par conséquent, dire un nœud à l'heure, c'est un pléonasme, tout simplement. Question rouge à présent de Françoise Porcher-Lebars qui habite Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère. Il faut trouver le nom d'un peintre. Peintre de la révolte, gosse de Brooklyn, devenu superstar, mort prématurément en 1988 à l'âge de 27 ans seulement, et dont l'œuvre bat aujourd'hui des records dans les salles des ventes. On en a parlé parce qu'il y a eu une exposition il n'y a pas longtemps. De quel peintre s'agit-il ?
Basquiat.
Jean-Michel Basquiat, qui a été le sujet d'une exposition à la Fondation Louis Vuitton jusqu'à mi-janvier. C'est bien Jean-Michel Basquiat qui était né en 1960 et qui est mort d'une overdose en 1988. Je reviens à cette question blanche. Une question de la part d'Anne Le Cornec à Saint-Paul, commune de La Réunion. Après les bambous, quelle est la plus grande herbe du monde ? Oui, c'est une plante herbacée qui produit un fruit qu'on consomme tous les jours. Enfin, pour la plupart d'entre nous. Pas forcément, mais...
Ah, oui. Le kiwi ?
Ah non, c'est le bananier.
Ah
oui, le bananier qui fait partie des plantes herbacées qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres de hauteur, bien sûr. Ça en fait la plus grande herbe du monde, à part le bambou. Anne Le Cornec, à La Réunion, à Saint-Paul, recevra pour cette question blanche 30 euros de la part de France Inter. Valérie Deslandres et Jean-Louis Ardelet, vous pouvez vous arrêter, mais en passant par le repêchage, vous avez encore la possibilité de tenter le...
Banco.
Le repêchage, aujourd'hui, il faut trouver le nom d'un auteur ou d'une auteure au féminin.
Je me suis toujours demandé quel effet ça faisait de porter un prénom épicène. Est-ce que c'était une jouissance ? Est-ce qu'on pouvait profiter de ce côté unisexe ? Ou au contraire, est-ce que c'était un fardeau ?
Ah, en fait, l'une de nos candidates, ou plutôt notre candidate, Valérie, est bibliothécaire, responsable de la médiathèque ici à Véron, et on avait choisi ce repêchage avant de faire connaissance avec vous, je le précise. S'agit-il donc d'Anna Gavalda, d'Annie Ernaux ou d'Amélie Nothomb ?
Amélie Nothomb.
Amélie Nothomb, oui, les prénoms épicènes. Vous avez donc la possibilité maintenant, très concrètement et directement, de tenter le banco.
Pour envoyer vos questions au jeu des 1000 euros, rendez-vous à la page de l'émission sur franceinter.fr.
Et justement, c'est ce qu'a fait Jean-Yves Noblet de Vineuil dans le Loir-et-Cher. Voici sa question banco. En 1936, Berlin, vous le savez sans doute, avait accueilli les Jeux Olympiques d'été. La même année, une ville allemande a organisé les Jeux Olympiques d'hiver. Quelle est cette station de sport d'hiver bavaroise ? C'est un nom composé. Quelle ville avait accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1936 ? Ville allemande en Bavière, pas loin de l'Autriche. C'est une station très connue, qui compte aujourd'hui 26 000 habitants, parce que c'est une station de sport d'hiver, mais aussi une ville, bien sûr. Vous savez qu'une minute, ça passe vite. Et nous arrivons au bout de la minute. Proposez peut-être un nom composé, comme je vous l'ai dit.
Non, là, on n'a pas d'idée.
C'est un nom qui va vous dire quelque chose, c'est Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen, qui avait accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1936, époque sombre. Et c'est Berlin qui avait accueilli les Jeux Olympiques d'été. Jean-Yves Noblet, à Vineuil, dans le Loir-et-Cher, recevra pour cette question banco 45 euros. Valérie Deslandres et Jean-Louis Ardelet, pour vous, le récepteur Radio France Inter et le livre de Mathieu Vidard, « Dernières nouvelles de la science ». Ce sont quelques-unes des chroniques que nous propose tôt le matin Mathieu dans ses éditos carrés, coédition France Inter et Grasset. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.
Et je vous annonce justement demain un enregistrement du jeu dans la Manche, à Cherbourg, en Cotentin, à la salle des fêtes, sélection enregistrement 18h30. Et après demain, mercredi, à Valognes, toujours dans la Manche, salle du château, également 18h30.